Un truc comme ça. Pas une mince affaire, continua Loupé, aussitôt traduit par Juan Diego. Vous vous êtes salement coupé, jefe, lui dit Vargas. Vous devriez peut-être vous en tenir au travail sur le basurero. À ce moment-là, tout le monde avait éclaté de rire. Juan Diego avait encore ce rire dans les oreilles, tandis que Dorothy continuait son topo. Elle parlait de la côte nord-ouest de Luçon. La Ouague était un port de commerce et un centre de pêche au Xe et XIe siècle. On voit bien l'influence de la Chine, et puis les Espagnols sont arrivés avec toute leur bondieuserie et leur Jésus-Marie-Joseph, tes vieux copains. Les Espagnols avaient conquis les Philippines au XVIe siècle et y étaient restés plus de 300 ans. Mais Juan Diego n'écoutait pas. Un autre échange occupait tout son esprit, un moment où il aurait dû ou pu voir venir les choses, un moment où il aurait pu changer leur cours. En regardant Vargas recoudre Rivera, Loupé s'était approché au point de toucher les points de suture. Le docteur lui fit remarquer qu'il risquait de coudre son petit visage curieux sur la main du jefe. C'est alors qu'elle lui posa la question qui la taraudait. « Est-ce que les lions peuvent attraper la rage ?»« Commençons par ça, » lui dit-elle. Juan Diego traduisit pour Vargas qu'il n'était pas homme à admettre des lacunes dans son omniscience. Un chien est contagieux quand le virus atteint ses glandes salivaires, soit environ une semaine, voire moins, avant qu'il n'en meure. Loupé parlait des lions, lui rappela Juan Diego. Chez les hommes, la période d'incubation dure généralement de 3 à 7 semaines, mais j'ai vu des patients développer la maladie en 10 jours, continua Vargas quand Loupé l'interrompit. Supposons qu'un chien enragé mord d'un lion. Vous savez, comme un chien des toits, ou un perro del basurero. Est-ce que le lion attrape la rage? Qu'est-ce qui lui arrive en fait? Il y a forcément des études là-dessus, il faudrait que je me renseigne, soupira Vargas. Les gens qui se font bouffer par un lion s'inquiètent rarement de savoir s'il était enragé en plus. C'est le cadet de leurs soucis. Le haussement d'épaule de Loupé se passait de traduction. Le docteur Vargas avait entrepris de panser les deux doigts blessés de Rivera. Ça doit rester propre et sec, effet. Mais Rivera dévisageait Loupé, qui ne soutint pas son regard. Elle gardait son secret pour elle, il le voyait bien. Quant à Juan Diego, il était impatient de retourner à Cinco Señores, où la Maravilla était probablement en train d'installer les tentes et de calmer les animaux. À l'époque, il jugeait avoir mieux à faire que découvrir ce qui la turlupinait. Comme tout garçon de 14 ans, Juan Diego s'imaginait en héros, il nourrissait l'ambition de marcher au ciel, ambition dont Loupé, l'extralucide, n'ignorait rien. Ils parvinrent à se caser tous les quatre dans la coccinelle de Pépé. Celui-ci déposa les enfants à Cinco Señores, avant de reconduire à sa bicoque Rivera qui souhaitait faire une sieste avant que la douleur ne se réveille. Dans la voiture, Pépé annonça à Juan Diego et à Loupé qu'ils seraient accueillis à bras ouverts aux enfants perdus. « On vous a gardé votre chambre, vous pouvez y revenir quand vous voulez, » leur dit-il. Mais Sœur Gloria avait rapporté à la boutique la poupée affriolante de Guadalupe. Les enfants perdus ne seraient plus jamais comme avant, pensait Juan Diego. À quoi bon quitter un orphelinat, si c'est pour y revenir? Quand on part, c'est pour toujours. Qui n'avance pas recule. Quand ils s'arrêtèrent devant le cirque, Rivera était en pleurs. Ce n'était pas la douleur qui revenait, les enfants le savaient. Le patron de la décharge était trop ému pour parler. Tu nous verrais bien revenir à Guerrero, hein, jefe? On le sait parfaitement, lança Loupé. Dis à Rivera que sa maison sera toujours la nôtre. Si un jour on doit revenir chez nous, dis-lui qu'il nous manque aussi. Juan Diego traduisit scrupuleusement les propos de sa sœur à Rivera, qui pleurait de plus belle sur le siège passager de la voiture, ses larges épaules secouées par les sanglots. Étrange, comme à cet âge-là, à 13 ou 14 ans, on tient l'amour des autres pour acquis. Et comme on se sent seul, absolument seul, même quand on vous réclame. Les deux enfants n'étaient pas abandonnés au circo de la Maravilla. Et pourtant, ils avaient cessé de se confier l'un à l'autre, sans trouver de nouveaux confidents. « Bonne chance pour le projet sur lequel tu travailles, » lança Juan Diego à Rivera, quand celui-ci quitta Cinco Señores pour rejoindre Guerrero. Pas une mince affaire, répéta Lupe, comme pour elle-même. Pépé était déjà reparti, et seul Juan Diego aurait pu entendre la réflexion de sa sœur, mais il ne l'écoutait pas vraiment. Il pensait à sa propre affaire, pas mince elle non plus. Pour ce qui était de prouver qu'on avait les couilles, seul le grand chapiteau, la marche céleste à 25 mètres de haut sans filet de protection, constituait le véritable test. C'est ce que Dolores lui avait dit et il la croyait sur parole. Soledad l'avait formée, elle lui avait appris la marche céleste dans la tente d'entraînement des petites acrobates, mais Dolores lui avait dit que ça ne prouvait rien. Il se rappelait avoir rêvé de marche céleste avant même d'en connaître l'existence, à l'époque où il vivait avec Lupe dans la bicoque de Rivera à Guerrero. Et quand il lui avait demandé ce qu'elle pensait de ce rêve où il marchait la tête en bas, elle était restée aussi énigmatique que d'habitude. Il s'était borné à lui dire « Il vient toujours un moment dans la vie où on doit lâcher les mains, les deux mains. » « C'est un rêve d'avenir, un rêve de mort, » avait-elle répondu. Dolores avait évoqué à sa manière ce moment crucial où l'on doit lâcher prise. Je ne sais jamais dans quelle main je me trouve à ce moment-là. Peut-être ces vierges miraculeuses ont-elles des mains magiques. Ce sont peut-être elles qui me tiennent. N'y pense pas, toi. Quand tu es là-haut, tu ne dois penser qu'à une seule chose, tes pieds, à la façon de progresser d'un échelon à l'autre. Dans la vie, il y a toujours un moment où l'on doit décider où est sa place. Et là, on ne peut compter que sur soi. On marche tous dans les airs. Tu sais, les grandes décisions, il faut peut-être les prendre sans filet. Dans la vie, il arrive toujours un moment où il faut lâcher prise. Oui, c'est ce que la merveille en personne lui avait dit. Après la tournée, les équipes du cirque faisaient la grasse matinée. Enfin, tout était relatif. Juan Diego aurait bien voulu en profiter pour prendre une longueur d'avance, mais avec les chiens, il fallait la jouer fine. Il essaya de se glisser hors de la tente le plus discrètement possible, sachant que s'il en réveillait un, celui-ci voudrait l'accompagner. Il se leva de si bonne heure que seule Pastora l'entendit. Elle patrouillait déjà et ne comprit pas pourquoi Juan Diego refusait de l'emmener. C'est sans doute elle qui réveilla Lupe après le départ de son frère. Il n'y avait personne dans l'allée des tentes. Juan Diego cherchait Dolores qui se levait tôt pour faire son jogging. Dernièrement, peut-être avait-elle couru trop vite ou trop longtemps, toujours est-il qu'elle en avait vomi. Il admirait ses longues jambes, certes, mais il était hostile à ces marathons démentiels. Les infirmes et la course, dira-t-on. Ce n'est pas parce qu'on aime courir qu'il faut s'en rendre malade. Mais Dolores prenait son entraînement à cœur. Elle courait et buvait beaucoup d'eau, persuadée que cela l'aidait à éviter les crampes. Quand on met la tête en bas sur les échelons de corde à 25 mètres au-dessus du sol, rien de pire qu'une crampe dans la jambe porteuse, dont le pied vous retient à l'échelle. Juan Diego se donnait du courage à la pensée qu'aucune des petites acrobates n'était prête à remplacer Dolores dans le rôle de la merveille. Il savait qu'après elle, il était le meilleur marcheur céleste de la Maravilla, à 3 mètres de hauteur du moins. Sous le chapiteau, c'était une autre histoire. Les voltigeurs montaient sur la plateforme supérieure par une simple corde dont les nœuds étaient espacés de manière à convenir aux mains et aux pieds de tous. À Dolores, comme aux voltigeurs argentins à la sexualité insatiable. Pour Juan Diego, ces nœuds ne posaient pas de problème particulier. Il y avait une bonne prise de main, n'étant pas plus lourd que Dolores, et il n'avait pas de mal à attraper le nœud au-dessus de lui, son pied valide bien posé sur celui du dessous. Il grimpait, se hissait à la force des bras, comme à l'entraînement, mais il regardait toujours vers le haut, jamais vers le bas. Au-dessus de lui, l'échelle de corde horizontale était suspendue tout en haut du chapiteau. Et à chaque poussée sur ses bras, il la voyait se rapprocher. Mais à ce rythme, grimper jusqu'à 25 mètres prenait du temps. « Tu as un autre avenir » entendait-il Lupe crier, une fois de plus. Pas question de regarder vers le bas, il continua son ascension. Il était presque arrivé, il avait déjà dépassé la plateforme des voltigeurs. Il aurait pu attraper les trapèzes, Mais pour cela, il aurait fallu qu'il lâche la corde.